Bonjour, je m'appelle Juelle Boulay. Bienvenue à la troisième saison de Jason Éducation. Aujourd'hui, mon invité est Patricia Thibodeau.
Bonjour, je m'appelle Patricia Thibodeau. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
Patricia Thibodeau, éducatrice qui en a vu de toutes les couleurs dans ses 50 ans et plus dans les écoles. Femme à tout faire, d'origine québécoise, canadienne de conviction et manitobaine de cœur, elle a œuvré à tous les niveaux scolaires, autant en langue seconde qu'en langue première. Préparez-vous à ressentir avec elle sa passion pour la langue française et à constater son engagement à la francophonie en milieu minoritaire. De plus, croyez-le ou non, ce n'est pas encore fini pour elle. Bienvenue, Patricia!
Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici.
Je voulais t'inviter grâce à une entrevue que tu avais faite pour les femmes en leadership scolaire parce que tu m'avais tellement inspirée avec toute ta carrière que tu avais faite, puis mais tout le positif que tu avais ressorti de ta carrière.
Ah bien, merci beaucoup. J'espère que ça a été un bon entretien que j'ai eu avec les éducateurs francophones du Manitoba. Et quel plaisir d'entendre quelqu'un qui a été inspiré par mon discours. Merci.
Pourrais-tu nous parler un petit peu de tes expériences en tant que pédagogue?
Ah, j'ai commencé à travailler en 1970. J'étais professeure de français dans une école secondaire. J'ai un peu voyagé aussi. Je suis allée à Cold Lake en Alberta, puis j'ai enseigné le français à la base militaire, au personnel militaire. Après ça, j'ai fait la même chose à Comox, j'ai fait la même chose à Saint-Jean. Je suis retournée au Québec et puis j'ai enseigné à Saint-Jean. Après ça, je me suis retrouvée à Moose Jaw. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, pilote militaire, qui m'a amené à Petawawa, la belle grande ville de Petawawa. Ensuite, de Petawawa, on est retourné à Moose Jaw. Et après ça, je suis venue ici en 1982, ici au Manitoba. Et ça ne faisait que 2 semaines que j'étais au Manitoba et j'ai senti cet appel du Manitoba. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va l'appeler, mais j'ai senti que je pourrais passer le reste de ma vie ici. Alors, j'ai commencé à travailler dans les écoles d'immersion. Ensuite, j'ai été embauchée par la division scolaire franco-manitobaine. J'ai travaillé au Bureau de l'éducation française. Et maintenant, je travaille à l'Université de Saint-Boniface et ça fait à peu près 25 ans que j'enseigne à l'Université de Saint-Boniface pour les cours du soir. Mais là, je fais maintenant des cours du jour et des cours du soir à l'Université de Saint-Boniface. Alors voilà, en gros.
Jamais fini.
Et c'est pas fini, c'est ça.
Alors, on parle beaucoup de l'identité francophone ici à Jason. Puis j'aimerais savoir quelles étaient tes expériences avec la langue française comme enfant, adolescente, adulte.
Bien, comme enfant, je suis toujours allée à l'école française. Je suis même allée à une école qui s'appelait l'Académie Sainte-Marie, comme ici on a St. Mary's Academy. Je suis allée à l'école, à l'Académie Sainte-Marie avec des religieuses. C'était toujours juste avec des filles jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai fait mon secondaire, le secondaire qu'on appelle le cours classique aussi, encore avec des religieuses. Ensuite, j'ai fait mon... le brevet A à l'école normale, avec des religieuses encore. Mais là, pour la dernière année de l'école normale, on nous a amenés à l'université. C'était la première année où on enseignait aux enseignantes comment devenir enseignante. Alors, le programme d'un bac en éducation. Alors, j'ai fini mon bac en éducation, finalement, à l'Université de Sherbrooke. À part de ça, j'ai toujours étudié en français. J'ai toujours trouvé des cours comme à l'Université d'Ottawa. Quand on était à Petawawa, je suivais des cours de français, littérature. Il y avait un prof de l'Université d'Ottawa qui venait à Petawawa, qui nous donnait des cours. Alors, j'ai suivi des cours là. J'ai suivi des cours à Regina en français. Je me rappelle même pas exactement quel cours que c'était. Peut-être de la littérature. J'ai suivi des cours à l'Université du Manitoba. J'ai suivi quelques cours en anglais maintenant, je dois dire, c'est vrai. Et la plupart de mes cours étaient à l'Université de Saint-Boniface après tout ça. Oui, alors c'est ça mon éducation. Et aussi, il faut dire que je viens d'une famille où ma grand-mère était enseignante et puis quatre de ses filles étaient des enseignantes. Et pour eux, le français était pas mal important aussi. Je dois dire que bien parler français, ça faisait partie de nos préoccupations familiales, vraiment. C'était très important de parler français, bien sûr, et de bien parler français. Ouais.
Aviez-vous peur de perdre votre langue?
Oui, ça m'a déjà passé par la tête, parce que c'est facile. C'est très facile de perdre sa langue en milieu minoritaire. Et j'ai marié un anglophone, alors voilà, une autre difficulté, mais... Je l'adore, mon mari, mais c'est pour ma langue, oui, ça peut... Alors oui, j'ai eu... À certains moments, j'ai pensé peut-être, oh mon Dieu, le message que ça m'a donné, cette idée de perdre ma langue, le message que ça m'a donné, c'est qu'il faut travailler fort pour la garder. Alors, j'ai toujours eu le bonheur, le plaisir et la chance de travailler en français, et d'enseigner en français, d'enseigner le français. Alors, ça m'a bien aidé à perfectionner mon français et surtout à le garder. C'est ce qui était très important pour moi. Oui.
Alors, aujourd'hui, comment est-ce que tu t'identifies?
Aujourd'hui, je m'identifie comme francophone. Je m'identifie comme francophone en milieu minoritaire. Et je pense qu'il faut encourager ça, cette identification en milieu minoritaire, dans le sens que... Je ne peux pas m'identifier comme étant bilingue. Mon anglais est pas mal extraordinaire, je pourrais vous dire, mais je voudrais pas faire un test avec vous là, aujourd'hui.
La prochaine fois.
Ce sera pour la prochaine fois, c'est ça. Mais il faut que je m'identifie comme francophone parce que je suis francophone. Je m'appelle Patricia Thibodeau. Thibodeau, c'était pas mon choix de nom dans ma vie. Là, Thibodeau. J'aurais aimé m'appeler Joli Cœur. Villeneuve ou un beau nom comme ça. Thibodeau. c'est ça, c'est important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai gardé mon nom, parce que mon mari s'appelle Richard Green. Je ne pouvais pas m'imaginer m'appeler Patricia Green. Pour moi, ça aurait été vraiment une perte d'identité, perdre mon nom. Patricia, c'est un très beau nom en français aussi, mais c'était très important. Alors oui, je m'identifie comme francophone et j'insiste là-dessus, en milieu minoritaire. C'est mon travail. Ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon travail, ça fait partie de ma passion, un de mes objectifs dans la vie, c'est que de propager la bonne nouvelle du français, peut-être, si je peux dire ainsi.
Est-ce que cette identité avait changé au cours des années?
Non, moi je pense non. Mon identité n'a pas changé. J'ai toujours eu l'impression d'être francophone. Plus j'ai maîtrisé la langue anglaise, ça n'a pas changé. Et ça a changé dans le sens que c'est encore plus important de m'identifier comme francophone.
Et lorsque tu es venue t'installer au Manitoba, est-ce que tu avais remarqué que le français était différent? Est-ce que tu avais des préjugés par rapport à notre accent, peut-être? Et je ne dis pas ça pour juger, mais pour entendre quelles étaient tes expériences, quelles étaient tes observations.
J'aimerais bien dire non, je n'ai jamais porté de jugement, mais ce ne serait vraiment pas vrai, vous savez. Alors oui, je pense que c'est normal de juger la langue des autres. Comme si je regarde quelque chose en anglais et je vois une erreur aux nouvelles, des fois on voit des erreurs en anglais, bien je juge. Je pense que c'est normal. Mais ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour comprendre que moi aussi j'ai un accent. Les Manitobains ont leur accent. Moi aussi, je fais des fautes. Les Manitobains font leurs fautes. Alors, il faut accepter ça et se donner ensemble comme objectif d'améliorer notre français ensemble. Et puis que la référence à l'accent, ça c'est une autre chose qui m'a passé par la tête à un moment donné, la référence à l'accent, c'est moi je me référais à l'accent des Franco-Manitobains selon ce que je connaissais, selon l'accent que je connaissais. Alors, oh mon Dieu, c'était pas un accent québécois, alors c'est un accent... Mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit que j'avais un accent québécois. Hey, tout à coup, on réalise qu'il y a un accent manitobain, il y a même un accent de Notre-Dame-de-Lourdes, il y a un accent de
Saint-Léon,
ils ont tous leurs accents différents. Même à l'intérieur du Québec, il y a différents accents. Moi, je n'ai qu'un accent, un de tous les accents différents qui existent au Manitoba, au Canada et dans le monde. Et plus le monde devient petit, plus les accents sont différents et plus les gens parlent très bien, peu importe leur accent, tu sais. Puis que tout le monde fait des erreurs. Et puis qu'on va toujours rencontrer quelqu'un qui parle mieux français. Moi, je vais toujours rencontrer quelqu'un qui parle mieux français que moi. Alors, pourquoi est-ce que j'oserais juger? Et ça serait pas, c'est pas acceptable. Parce que les personnes me jugent, je sais, et je juge les autres. Jusqu'à un certain point, il faut dépasser ça puis travailler ensemble pour améliorer notre français.
Oui, je suis d'accord. Alors, comment est-ce que ce changement avait alimenté ton enseignement quand tu es venu ici dans un contexte minoritaire de langue?
Dans un contexte minoritaire de langue, OK. Bien, une des choses, comme travailler en immersion, ça a été toute une expérience, une belle expérience pour moi, dans le sens que ça te rend consciente des efforts que les autres peuvent faire pour apprendre une langue, même chez les enfants. Et puis, je pense que ça m'a conscientisé sur l'apprentissage d'une langue. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre une langue? Pour apprendre une langue, il faut avoir un encouragement. Quand tu es un petit bébé dans ton milieu majoritaire, peut-être francophone, parce que ta mère te dit « Oh, wow, c'est vrai, ça c'est du lait », tu sais. Puis quand tu répètes, alors un peu la même chose. Et puis aussi avec la formation qu'on a reçue aussi comme prof d'immersion. On nous a vraiment conscientisés sur accentuer le positif, donner l'importance au message, corriger les fautes. Mais on nous a montré comment corriger les fautes, pas couper la communication. Très important de rester en communication avec les enfants. Et que la communication est la chose la plus importante. Mais les fautes d'orthographe et les fautes de structure, c'est quand même... Il y a une certaine place à corriger ça, par exemple. Bon, voilà, là, je me laisse aller, là. Mais il faut corriger parce qu'il faut garder le génie de la langue, hein. Il y a une façon de penser qui est une façon francophone. Puis c'est ça que j'aimerais donner à mes étudiants, de les amener à penser comme un francophone, puis même j'irais jusqu'à un francophone unilingue. Ça, c'est notre objectif. Alors, c'est ça. Alors, moi, je trouve que l'enseignement de la langue, c'est pas mal. C'est quelque chose de très subtil, très exigeant. Mais pas facile à... Une langue, c'est pas facile à apprendre, même chez les petits-enfants. On pense que c'est facile pour eux, mais c'est pas si facile que ça. Et j'enseigne aux adultes aussi, et c'est encore moins facile pour les adultes, même s'ils sont déterminés, motivés et très intelligents. Alors oui, ça m'a enseigné comment enseigner une langue.
Oui, et je vais poser une grosse question. Comment est-ce qu'on fait ça?
Comment est-ce qu'on enseigne une langue? C'est encourager le positif, accentuer le message, choisir les bons moments pour faire les corrections, choisir les bons moments pour faire les exercices, parce que je crois un petit peu que si tu es en train d'apprendre à utiliser le plus que parfait avec le conditionnel passé, c'est peut-être une bonne idée de faire quelques exercices. Alors... OK. En étant un bon modèle, attends une minute que je pense. En pratiquant avec l'étudiant ou le groupe d'étudiants ou les élèves, en les appuyant dans l'usage d'une certaine structure ou aussi, on peut aller jusqu'au général aussi, en les appuyant dans l'usage de la langue, tu sais. Et en les laissant aller, puis en leur donnant la chance de faire leurs propres erreurs et puis d'arriver peut-être, notre objectif, à s'auto-corriger, tu sais. Voilà. Ça fait combien d'étapes, là? 4 ou 5 étapes?
Plusieurs. Puis j'imagine qu'il y a des sous-étapes dans chacune.
Dans tout ça.
Est-ce qu'il y avait comme une stratégie ou quelques stratégies que tu avais trouvées qui marchaient le mieux pour les élèves d'immersion française?
Il y a beaucoup de stratégies qu'on nous a proposées, mais savez-vous quelle est la meilleure stratégie? C'est de changer de stratégie souvent.
OK.
Alors, oui, les billets, là. Ouais. Oui. Alors, vous les connaissez, toutes les stratégies. Mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Alors, changer de stratégie. Je ne sais pas, le travail de groupe... Nommer un moniteur du français dans votre groupe. Si vous travaillez en groupe de 3 ou 4, il y en a un qui va s'occuper de dire « Oh, on ne parle plus français maintenant ». Alors, ça, c'est une stratégie, mais il y a beaucoup de stratégies. Je pense qu'il y a des ateliers qu'on donne depuis l'année zéro de l'immersion sur des stratégies de comment... comment encourager le français chez les étudiants. Ce que je trouve le plus intéressant, par exemple, c'est comme la pression des pairs, la pression du groupe. Travailler avec tout le groupe, là. Ça, c'est idéal, je pense. Parce qu'on sait, ceux qui vont parler français, c'est ceux qui vont toujours parler français. Ceux qui ont une certaine aisance ou qui sont les meilleurs dans la classe ou qui sont les plus motivés. Mais c'est d'amener ceux qui ont moins la motivation. Ils veulent, je sais pas, c'est l'effort, la motivation, la confiance en eux-mêmes aussi. Des fois, tout ça, ça peut manquer. Alors, et donner le succès aux étudiants, ce qui me fait penser, c'est ça. S'assurer que les étudiants connaissent le succès. Il n'y a rien comme connaître le succès pour dire que je suis bon en mathématiques, alors je vais continuer à étudier les mathématiques. Hein. Si je me sens bon et bonne là, dans mathématiques, je vais continuer à étudier. Alors, donner ce sentiment d'être capable de posséder les habiletés pour parler le français.
Une stratégie que j'avais essayée à la fin de l'année, malheureusement, mais heureusement aussi, c'est que on a étudié Harry Potter. Alors, j'ai mis les élèves en maison, puis c'était des équipes où il fallait parler français. Puis, si quelqu'un parlait anglais dans le groupe, c'est tout le groupe qui perdait des points.
C'est ça.
Et ça, ça avait vraiment motivé mes élèves. Puis, ensuite, chaque semaine, à la fin de la semaine, le groupe avec le plus de points avec 15 minutes de temps libre. Ça, j'ai trouvé, c'était la meilleure stratégie. J'aime pas enlever des points. C'est pour ça que j'avais résisté pendant si longtemps. Mais c'était la meilleure stratégie de toutes les stratégies que j'ai essayées.
Bon, puis donner des points. T'sais, donner des points plutôt que d'enlever des points. Essayer d'accentuer ça.
Et j'en ai fait ça aussi.
Et il y a beaucoup de stratégies. Et il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent. Il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent pour une personne puis qui ne fonctionneront pas pour une autre personne. Mais que ça prend de l'endurance et de la persévérance pour continuer pour garder l'espoir qu'ils vont finir par parler français. Et en passant, justement, parce que, Mme Juel, vous avez été cette année dernière, là, la prof de mon petit-fils, vous l'avez encouragé à lire aussi. Vous l'avez non seulement encouragé à parler français. Non. Mon mari lui a acheté tous les 8 livres de Harry Potter, puis je pense qu'il en a lu 4 peut-être moins de 3 mois, c'est comme ça que je vais le dire, oui, moins de 3 mois. Alors, ça lui a donné le goût de la lecture. Et ça, c'est tout un cadeau.
C'est cool. Est-ce que tu faisais comme des activités culturelles ou communautaires avec tes jeunes?
Bien oui, j'ai travaillé comme coordonnatrice des activités culturelles de la division scolaire franco-manitobaine. Alors, j'ai organisé beaucoup d'activités culturelles pour la division scolaire franco-manitobaine. Quand j'enseignais dans une classe, on participait au Festival du Voyageur, on a même mangé de la tire une fois là, au printemps. Qu'est-ce qu'on a fait à part de ça? Tu sais, des activités. On lisait des livres francophones, comme le chandail de hockey, là, qui joue maintenant ici à Winnipeg. Et, tu sais, lire des choses francophones, vivre en français. Mais aussi, je pense que comme personne, on c'est pas juste les sorties qui comptent, qui sont des activités culturelles. Il faut leur montrer, facile à dire, plus difficile à faire, je suis 100% d'accord, mais je pense que j'étais une personne qui vivait le français, tu vois, c'est ça. Si je vis le français, je donne le goût à, oh mon Dieu, puis chanter en français, ça aussi. Même si je chante mal, on chantait en français. Voilà d'autres, bien des idées culturelles à l'intérieur des classes, ah oui. Il faut toujours faire quelque chose. Et avec l'Internet, maintenant, il y a beaucoup de choses francophones qui se passent à l'Internet. Et pourquoi pas s'en servir, tu sais?
Alors, de modeler ce qu'on veut que les élèves fassent.
C'est
surtout.
Ça. C'est ça.
Et leur
ça,
donner des occasions pour vivre ça eux-mêmes.
Oui.
Et j'imagine que c'est encore plus important pour les élèves d'immersion française parce qu'ils n'ont pas forcément cette culture à la maison non plus.
Oui. Je pense que c'est important pour les étudiants en immersion, oui. Qu'ils s'identifient. Et moi, j'enseigne, les cours du soir, j'enseigne à des étudiants qui sont sortis de l'immersion et qui sont tellement fiers de parler français, tellement fiers de connaître la culture francophone, que jusqu'à un certain point, ils s'y identifient. Oh, c'est peut-être là cette dualité culturelle là, que nos étudiants de l'immersion ont. Et certains de nos petits francophones ont aussi. Ils sont très bons en anglais, mais ils sont très bons en français aussi et très motivés à perfectionner leur français. Alors oui, j'ai même des étudiants de l'immersion qui me disent, bien moi quand je vais dans un magasin, je fais de la demande active et ils demandent le service en français. Hey, ça c'est pas tout le monde qui fait ça, je peux dire, mais si on en a quelques-uns qui peuvent faire ça, qui sortent de l'immersion, c'est pas mal incroyable. Et on ne sait pas, en troisième année, on ne sait pas, comme l'étudiant dont je parle, qui m'a dit qu'il faisait de la demande, je savais pas, son prof de troisième année savait pas que qu'il deviendrait un militant pour la francophonie manitobaine, tu sais. Hein, il savait pas. Le prof de troisième lui a juste planté une petite graine, puis le prof de cinquième, sixième, jusqu'à la douzième, puis le voilà qui se bat, en tout cas, pour le français au Manitoba. Alors, on ne peut pas demander mieux.
Oui, et c'est pas mal cool qu'ils s'identifient tellement positivement à la langue aussi.
À la langue et à la culture, c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses favorise cette identification positive? Comme surtout chez les élèves en immersion, parce que je tiens ça beaucoup à cœur, parce que je suis aussi élève d'immersion française.
Non!
Oui!
Non! Bravo.
Je suis francophone de naissance, mais j'ai été dans des écoles d'immersion française. Et maintenant, je travaille à DSFM. Alors, j'ai vu comme un peu les deux côtés de la médaille. Alors, l'identification positive avec la langue, comment est-ce que les enseignants, les pédagogues peuvent alimenter ceci?
En étant eux-mêmes et en partageant ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont de la francophonie. Tu sais, c'est ça. Et en immersion. Et en se parlant français entre eux comme étant des bons modèles, très important. Il ne faut pas oublier que parler français, c'est comme toutes les autres langues, c'est communiquer. Comment est-ce que je veux communiquer, je veux te donner mes idées le plus vite possible et le plus facilement possible. Il faut éviter ce piège-là. Dans un programme d'immersion où on veut pratiquer le français. L'objectif est de pratiquer son français. C'est pas nécessairement que ce soit un message facile à donner. Il faut se forcer un peu pour utiliser ce qu'on sait en français. Et c'est un des pièges de l'immersion, je pense. C'est qu'on se retrouve dans une situation. Et le stress d'être enseignant, je pourrais en parler jusqu'à l'année prochaine, ça aussi. On se trouve dans des situations stressantes, on se trouve dans des situations où il faut agir vite, et on prend la langue, l'autre langue, je vais dire. C'est peut-être, et souvent, malheureusement, des fois, c'est la langue la plus facile qu'on peut utiliser, mais il faut quand même rester dans cette voie de francophonie. Alors, les profs doivent jouer un rôle de modèle et parler français entre eux. Et utiliser ce qu'ils savent et partager ce qu'ils savent. Oui.
Oui.
Modèle, modèle, modèle.
Et souvent, même dans les écoles double voix, l'admin est anglophone. Puis là, c'est comme les enseignants se travaillent comme... Oui, comme ils ont tellement plus un travail dur, j'ai l'impression.
Mais, oui.
Mais oui, évidemment, modéliser, ce serait un bon départ au moins.
Oui.
Alors, tu parlais tantôt d'un français de bonne qualité. Et je pense que beaucoup de personnes des générations précédentes ont vécu avec la grammaire. On conjugue ce verbe au participe passé. C'est comme comme verbe de premier groupe, de deuxième groupe. Puis là, c'est comme, OK, mais comment, ouais. Alors comment est-ce qu'on améliore la qualité sans juste comme perdre cet amour pour la langue elle-même.
C'est ça. Bien, pour commencer, j'ai toute une thèse là-dessus, vous
savez.
Pour commencer, il faut identifier les menaces à la langue française. Alors, quelles sont les menaces à la langue française? Il y en a plusieurs. Une des menaces en milieu minoritaire, ce serait l'anglais, je suppose. On peut parler de ça. Ensuite, il faut accepter que ces menaces-là, il faut les accepter, les menaces-là, et en même temps les combattre. Alors, c'est ça. Et ça, c'est notre rôle de professeur. Il faut viser la perfection tout en acceptant de jamais y arriver. Ça, c'est ce que je veux dire pour commencer. Si je vis au Québec, on parle une certaine langue, il s'agit de la perfectionner. Si je vis au Manitoba, il s'agit d'une certaine langue, il faut que je la perfectionne. Si je suis prof de français, il s'agit d'une certaine langue pour moi, il faut que je la perfectionne. Alors, si on peut se donner cette idée-là que la perfection, là, n'est pas de ce monde, il faut chercher à s'améliorer. Il ne faut pas oublier aussi qu'une langue, c'est quelque chose qui évolue. Puis, il faut être peut-être un petit peu plus axé vers l'avenir avec la langue française plutôt que d'être axé vers le passé. Et c'est une des erreurs de la langue française qu'on a dit qu'elle a toujours été axée. Avec l'Académie française, on a toujours voulu garder ça comme c'était avant. Alors, si on se met dans cette façon de penser-là, je pense qu'on peut se perfectionner en français. OK. Et la langue française est une langue basée sur la grammaire. La langue française, il y a deux langues en français, il y a la langue parlée et la langue écrite, vraiment. Et la langue écrite ne prononce pas toutes ses lettres. Alors, je ne sais pas comment, on n'a pas trouvé en tout cas un autre moyen pour enseigner la langue écrite sans faire de la grammaire. Mais, puis facile à dire, plus difficile à faire toujours, il faut choisir le bon moment pour enseigner la grammaire. Il faut enseigner la grammaire en petite bouchée. Il faut enseigner la grammaire et s'attendre à répéter la grammaire. Comme en première année, on va apprendre le singulier et le pluriel. Bien, il faut quand même le revoir des fois en première année à l'université. Je le sais, je le fais. C'est ça. Alors, il faut leur enseigner ça en petite bouchée, mais se répéter et tout en ne s'attendant pas à la perfection du jour au lendemain. Et une langue, c'est un projet de vie. Si je parle juste une langue, si je veux la perfectionner, je peux la perfectionner jusqu'à ma mort. Si je parle deux langues, c'est encore plus qu'un projet de vie. Alors, soyons réalistes. Hein? Si je parle deux langues, c'est excellent. Quel cadeau que nos parents ou que nos enseignants nous ont fait que nous enseigner deux langues. En plus, c'est juste deux langues aussi. Alors, je pense qu'il faut être réaliste et il faut accepter de se répéter, mais atteindre la perfection, peut-être quand j'aurai 99 ans sur mon lit de mort, peut-être. Je pourrais dire, je me suis rendue là. Il faut devenir meilleur comme apprenant, devenir meilleur comme enseignant. C'est ça qu'il faut essayer de développer.
Ouais. Oui, je suis tellement d'accord. est-ce que tu corrigeais la prononciation des élèves?
OK, encore. Je vais dire qu'en immersion, on passait pas beaucoup de temps à corriger la prononciation des étudiants. Je pense pas qu'on passait beaucoup de temps. Et en tout cas, moi, je peux dire que je ne passais pas beaucoup de temps. Mais on le faisait, je pense, en étant un bon modèle. On le faisait aussi en travaillant avec les étudiants, puis quand ils lisaient, on le faisait pas mal inconsciemment, souvent. Alors, ça, c'est peut-être la situation idéale. Mais oui, il faut enseigner la prononciation et faire des exercices de prononciation, je ne suis pas contre ça non plus. Puis en plus, on peut faire des exercices de prononciation de façon le fun aussi. Alors, pourquoi pas en faire? Parce que encore, on essaye d'atteindre cet accent qu'on connaît, disons, idéal. Je vais appeler ça un accent canadien. Nous autres, on vise un accent canadien. Alors, pourquoi pas essayer de développer, pourquoi pas donner ça à nos étudiants qui sont les anglophones, le plus proche de ce que c'est que l'accent canadien, en fait, prononciation. En faisant des exercices, s'il faut, ou en les corrigeant à mesure qu'ils utilisent des mots une fois de temps en temps, en petite bouchée, par exemple, sans couper la communication. Ouais.
Alors, il faut beaucoup pratiquer à l'oral aussi.
Ah oui. Ah, bien oui, parler. Comment est-ce qu'on apprend une langue? Il faut parler pour apprendre une langue, ça c'est clair. Et ça, l'immersion, ils comprennent ça, eux autres. Oui.
Alors, ma dernière question... De quoi es-tu le plus fière de toute ta carrière?
Oh là là! OK! De ce dont je suis le plus fière de toute ma carrière, c'est la variété des expériences que j'ai connues. Je pense que la résilience que j'ai eue, puis comme vous m'avez entendu dire, ça n'a pas toujours été jojo, ma carrière. Il y avait des moments, des hauts et des bas, un peu comme tout le monde. Mais malgré ça, la résilience. Et je suis fière de tout ce que l'éducation m'a enseigné. C'est incroyable. Dans un milieu, dans les écoles, quel milieu extraordinaire pour apprendre comme prof aussi. C'est pas juste les enfants qui apprennent. Je suis fière d'avoir participé, d'avoir travaillé, d'avoir contribué à l'éducation au Manitoba. Je suis fière de la pensée positive que j'ai développée. Et je pense que ça, c'est
ma clé. Ça s'est traduit.
Ça, c'est ma clé. Ça, c'est ma clé. Et je suis fière d'avoir développé chez un certain bilinguisme, disons, au niveau de nos Canadiens, d'avoir participé à la formation de Canadiens bilingues. Ça, c'est incroyable. C'est un beau projet pour moi. Et pour finir, disons, j'aimerais dire que j'espère que j'ai eu un impact positif sur certains de mes élèves ou quelques-uns de mes élèves et même quelques-uns de mes collègues. Et parce que j'ai appris beaucoup de choses de mes collègues, de mes élèves, de mon travail en éducation. Alors voilà.
Et merci d'être venu à nous jaser aujourd'hui.
Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être ici.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juel Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.